jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec toute notre équipe, comme chaque jour, Perrine Suquet bien sûr, Margot Agnès qui nous a retrouvé dans les archives sonores de la rédaction d'RTL un certain nombre de documents que nous écouterons dans un instant. C'est Philippe Duval qui est aux manettes techniques de notre émission et à la une, on vous l'a dit très rapidement tout à l'heure avec Vincent Parisot et Christelle Robière. Il s'agit de l'affaire Tommy Recco. Il faut vous dire que cet homme est un des plus vieux détenus de France actuellement. Il vient de demander, après 34 ans de prison, une libération conditionnelle pour raison médicale. Inutile de dire que les familles des victimes s'y opposent et ne veulent pas entendre parler de liberté conditionnelle. On va revenir sur l'ensemble de ce dossier. Je vous présente mes invités dans un instant, mais d'abord, voilà ce qu'il faut savoir. Tommy Recco a actuellement 80 ans. Il a été condamné deux fois à perpétuité pour un total de 7 meurtres, dont celui d'une fillette de 11 ans. Il a été condamné d'abord à perpétuité en 1962 pour un crime commis 2 ans plus tôt, le meurtre d'un garde maritime à Propriano en Corse, d'où il est originaire. Il a été libéré une première fois après 17 ans de détention en 1977, et puis il a été à nouveau condamné à perpétuité en 1983 pour 2 triples meurtres, l'un à Béziers dans une grande surface et l'autre à Carqueiran. Et ces 2 triples assassinats ont eu lieu en 1979 et 1980. Il est donc dans la 34e année de détention de sa 2e condamnation à perpétuité. Et malgré ses aveux répétés, malgré les preuves accablantes qui justifient ces 2 condamnations, il nie maintenant en bloc tous les assassinats et il clame son innocence. On va en parler tout de suite avec mes invités. Maître Étienne Nicolo, qui est l'avocat de Guy Morel. Guy Morel est là également en direct de Montpellier depuis le bureau RTL d'Aline Thibal. Guy Morel est le mari de Sylvette, l'une des victimes de la tuerie de Béziers. Bonjour Guy Morel.
Bonjour Monsieur Jacques Pradel.
Je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission spéciale. L'état des choses en ce moment, on va en reparler dans un instant évidemment pour l'aspect judiciaire avec Maître Nicolo, votre avocat, mais on en reparle de cette affaire parce que Tommy Recco vient de faire à nouveau une demande de libération anticipée pour raison de santé. Avant de vous laisser parler, Guy Morel, oui. Je voudrais qu'on entende un document RTL où on va vous entendre, oui. Mais c'était le lendemain de la condamnation par les assises du Var de Tommy Recco à la prison à perpétuité. Cette condamnation est intervenue le 14 juin 1983, oui. Et vous réagissiez à ce verdict au micro de Robert Cessieux, le lendemain donc, le 15 juin 1983.
Oui. Ce que je veux, c'est qu'il ait la perpétuité, c'est-à-dire qu'il reste à vie en prison. Je demande à M. Badinter, qui aujourd'hui est responsable et garde des Sceaux, qu'il prenne conscience que Recco est un cas. Et c'est un cas, comme on dit, qu'il faut se préoccuper de lui. Parce que je le dis bien aujourd'hui, Recco fera mal encore. C'est pas en le laissant en prison ou avec 18 années de détention qu'il faut lui laisser la chance de retrouver la liberté. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, dès que la peine a été prononcée par Recco, la première parole qu'il a eue envers ses avocats, ça a été la cassation. Donc, il veut se servir de tous les points qui lui sont accordés au niveau de la justice. Alors, une chose, celle-ci, c'est que j'étais déjà convaincu du verdict. Et pour moi, il n'y avait aucune hésitation à voir, parce que je vous dis une chose, c'est que le jour où ma femme est rentrée, comme on dit, dans le caveau, je lui ai dit, je te vengerai. Que ça ne déplaise à qui que ce soit, si Recco un jour retrouve la liberté, voyez, je m'en cache pas, je suis pas un tueur, je suis pas un assassin, mais croyez-moi, je ne lui laisserai pas un jour de liberté.
Guy Morel, c'était donc il y a 31 ans.
Oui, au palais de justice à Draguignan, oui. Je me souviens très bien de mes propos, oui.
Est-ce que vous maintenez ces propos aujourd'hui, 31 ans plus
tard ? Je maintiens ces propos pour la bonne raison que je viens de passer la semaine en Corse, dont j'étais à la centrale pénitentiaire de Borgo, où j'ai été reçu par le directeur de la prison pendant plus d'une heure 15 minutes dans la centrale. Je le répète et je le redis, M. Rico est d'une dangerosité extrême. Il n'a aucune pathologie, il n'est pas malade, il fait du cinéma avec des béquilles. Là, aujourd'hui, il ressemble à un petit patriarche avec une grande barbe blanche. Aujourd'hui même, il nie, je dis bien, le meurtre du garde-pêche, M. Casabianca. Oui. Alors que samedi, j'étais à Propriano, j'étais avec la famille Casabianca, et j'ai les propos, puisque M. Casabianca, fils, est décédé depuis 4 ans, que la maman, Madame Rico, était la patriarche de la dynastie des Rico, qu'elle avait les mains pleines de sang le jour où on a recherché le corps de M. Casabianca, et elle a même nettoyé le t-shirt de Tommy Rico.
Alors, bon, Madame Rico n'a jamais été mise en examen ni inculpée à l'époque des faits, donc je vous laisse la responsabilité
j'assure ma responsabilité. Mais,
oui. Alors, simplement, Guy Morel, je tenais à ce que vous soyez là aujourd'hui, parce que à l'occasion de cette demande de liberté conditionnelle, et on comprend évidemment bien que les familles de victimes qui ont été touchées à perpétuité aussi, hein, par ce drame, voient d'un mauvais œil la simple possibilité d'une libération conditionnelle. Il faut dire, je reviens à vous dans un instant, Guy Morel, mais oui. On va prendre tout de suite votre avocat, maître Étienne Nicolo. Bonjour, maître.
Bonjour.
Oui, précisons que pour l'instant, il y a une demande que vous vous êtes rendu, vous étiez aussi devant le tribunal de Bastia,
mais, des peines,
voilà, oui. Qui a remis sa décision à la fin du mois d'avril.
Absolument, la décision sera rendue donc le 24 avril prochain. Nous saurons à ce moment-là si Tommy Rico peut bénéficier d'un aménagement de peine pour les motifs qu'il a invoqués. Il faut savoir qu'en réalité, Tommy Rico a fait deux demandes qui ont été examinées par le tribunal d'application des peines.
L'une pour raison de santé et l'autre simplement parce que c'est la marche normale, on va dire, en cas de détention prolongée, les détenus peuvent faire des demandes régulièrement de libération conditionnelle. Hein, on est bien
donc,
d'accord.
C'est assez simple. Pour ce qui concerne la demande de suspension de peine pour raison de santé, elle ne peut pas aboutir, tout simplement parce que toutes les expertises qui ont été faites sur le plan médical aboutissent à la même conclusion. Monsieur Rico a un état de santé compatible avec sa détention. Donc, alors qu'il faut deux rapports distincts et concordants pour pouvoir bénéficier d'une mesure donc, de suspension de peine pour raison de santé. Donc, ça ne peut pas aboutir. Quant à la demande de libération conditionnelle, il faut savoir là aussi que Tommy Rico est effectivement incarcéré depuis de très nombreuses années. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait envisager, c'est ce qu'il dit, d'obtenir une libération.
Il entame sa 34e année de détention
pour les deux triples
meurtres de Béziers et de Carqueran. Hein.
Donc, en deux mots, il faut quand même savoir que cet homme avait été condamné une première fois à perpétuité, alors que l'avocat général en Corse avait requis la peine de mort, que sa peine a été commuée en 20 ans, qu'au bout de donc 17 ans, il est sorti en liberté, et que deux ans plus tard, il a tué trois caissières à Béziers, puis ensuite trois autres personnes, dont une gamine de 12 ans.
Alors, maître, nous allons rappeler dans cette émission, évidemment, les circonstances de ces trois crimes.
Hein, au total, oui.
Ces trois crimes et ces sept victimes, hein, si j'ai bien compté. Le garde maritime en 1960 à Propriano, et ensuite deux fois trois personnes, trois employés donc d'un supermarché de Béziers, et puis deux adultes et une enfant, Sandrine, qui avait 11 ans à l'époque à Carqueran. Simplement une question d'ordre juridique, maître. On comprend bien sûr la réaction des familles de victimes qui trouvent insupportable l'idée qu'on puisse rendre la liberté à quelqu'un qui a tué l'un de leur famille. En tant qu'avocat, Et là, c'est à l'avocat que je m'adresse. Bien sûr, vous allez relayer cette position de votre client. Mais est-ce que les familles de victimes ont droit au chapitre dans ce cas-là, ou est-ce que simplement Monsieur Morel est allé là-bas pour marquer le coup ?
Non, non, la loi
va être entendu.
La loi, alors, lui ne peut pas être entendu par le tribunal d'application des peines, mais la loi prévoit que l'avocat ou les avocats des victimes et des parties civiles peuvent être entendus et faire valoir leurs arguments devant le tribunal d'application des peines ou devant le juge d'application des peines, selon les cas.
Et vous l'avez fait,
donc cette démarche-là. C'est la deuxième fois que je le fais pour M. Morel. Je l'avais fait lorsque M. Réco était incarcéré à Clairvaux, et je viens de le faire alors qu'il était incarcéré, donc, en Corse, à Borgo. Alors, il faut quand même savoir que le combat de M. Morel est un combat qui est juste et qui n'est pas un combat de vengeance ou de récrimination.
Alors, je vous interromps, je suis d'accord, c'était important que vous le précisiez. On va faire une pause et je vous reprends tout de suite après, vous et Guy Morel.
Oui, parce que c'était juste pour dire quand même que, si vous voulez, ce que nous cherchons à démontrer, c'est que Réco est toujours dangereux et que c'est la raison pour laquelle il ne doit pas sortir, et pas simplement parce que M. Morel a de la rancune contre lui.
Alors, on va revenir sur tout cela. Absolument. Et reparler évidemment du long parcours criminel de Tommy Réco. A tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
À propos de l'une des tueries dont Tommy Réco s'est rendu, était l'auteur, la presse avait écrit, je crois que c'était le Midi Libre, avait titré « de sang-froid », comme les crimes de Truman Capote, qui est évidemment, ce titre est célèbre dans le monde entier. On va retrouver Guy Morel, donc le mari de Sylvette, l'une des victimes de la tuerie de Béziers. On va retrouver évidemment Maître Nicolo également dans quelques minutes, mais d'abord, pour que on comprenne l'enjeu de cette libération conditionnelle, il faut revenir sur le parcours de Tony Réco. Alors, il faut que je vous dise que Tony Réco est né en 1934 à Propriano en Corse, dans une famille de pêcheurs qui tenait d'ailleurs la meilleure poissonnerie de la ville. Peu avant 1960, il avait été mis en cause dans la disparition de trois jeunes touristes allemandes qui avaient loué ses services pour une sortie en bateau dans le golfe d'Ajaccio, qui n'en était jamais revenu. Mais Réco va bénéficier pour cette affaire d'un non-lieu. Et puis, ce qu'on peut appeler l'affaire Réco commence vraiment en 1960, lorsqu'on découvre le cadavre d'un garde maritime, Joseph Casabianca, parrain de Tommy Réco. L'homme a été tué par balle et on lui a littéralement écrasé la tête avec une pierre de 30 kilos. C'est donc un meurtre particulièrement violent. Et quelques temps plus tard, le jeune frère de Tommy Réco, Pierre, va raconter qu'ils avaient tous les deux été repérés par le garde maritime au cours d'une partie de pêche à la dynamite dans le golfe de Propriano. Une fois revenu à terre, Tommy, armé d'un fusil, aurait, dit-il, rejoint le garde et tiré sur lui. Les enquêteurs vont découvrir des débris d'une crosse de fusil avec laquelle on a frappé la victime, des débris maculés de peinture verte, et c'est ce détail qui permettra, entre autres, de confondre Tommy, qui avouera son crime avant de se rétracter un peu plus tard, comme il l'a fait systématiquement dans toutes les affaires de meurtre auxquelles il a été mêlé par la suite. Et pour ce crime du garde maritime, il est condamné à la prison à perpétuité. Il effectue, comme on l'a dit, 17 ans de détention avant de bénéficier d'une libération conditionnelle. Nous sommes en 1977 et il ne fera plus parler de lui jusqu'en décembre 1979. Deux ans plus tard, effectivement, le 22 décembre 1979, trois employés du supermarché Mammouth de Béziers sont retrouvés mortes dans la salle de comptage de la recette du magasin. Elles ont été abattues par balles, et dès 18h le même jour, dans RTL Soir, Michel Cellier faisait le point sur les premières hypothèses des enquêteurs.
Ce sont trois jeunes femmes qui sont tombées sous les balles de leurs agresseurs, trois jeunes femmes qui se trouvaient dans la salle des coffres en train de comptabiliser la recette. Ce hold-up n'a eu aucun témoin, personne n'a rien vu ni rien entendu. On a découvert les corps des victimes vers 14h, alors que selon le médecin légiste, elles ont été abattues vers 13h30. Et toujours selon le médecin légiste, les agresseurs ont fait s'allonger les trois jeunes femmes avant de les abattre à bout portant, chacune d'une balle dans la tête. Je vous propose d'écouter la déclaration du commissaire Paul Faure, le chef de la sûreté de Béziers.
L'enquête est à son début. Très certainement, il y a un hold-up s'est produit vers 13h au Mammouth de Béziers. Trois employées féminines ont été tuées par balle. L'enquête continue. On ignore même ce qui a été dérobé en l'état actuel de l'enquête. Je ne peux pas vous donner des détails, ces détails-là, qui seront exploités par la suite. Les faits sont là. Malheureusement, trois employées féminines de Mammouth ont été tuées à la suite d'un hold-up ou d'une tentative d'hold-up.
Alors à l'époque, on pense qu'il y a peut-être plusieurs participants à ce hold-up. On va ensuite constater que le ou les malfaiteurs sont repartis avec une somme très importante, plusieurs centaines de milliers de francs de l'époque. Et puis l'enquête s'enlise parce que il n'y a pas de témoins, il n'y a pas d'indices exploitables par les enquêteurs. Et trois semaines plus tard, le 18 janvier 1980, trois personnes sont à nouveau abattues, cette fois dans une maison de Carqueran près de Toulon. Les victimes sont un homme, sa fille de 11 ans, Sandrine, et leur voisin. Le lendemain matin, André Lucchesi, le correspondant d'RTL dans la région, racontait le drame et ses circonstances dans le journal de 6h30, présenté à l'époque par Dominique Chapat.
Maman, viens vite, on veut nous tuer. C'est le dernier et pathétique appel de détresse lancé hier soir au téléphone par une petite fille de 11 ans. Au bout du fil, dans la région toulonnaise, il y a la mère de cette fillette qui va réagir très vite, mais déjà il est trop tard. Il était 19h hier soir quand a commencé cette tragédie hors série dans une villa d'un lotissement résidentiel de Carqueran. Sandrine Le Goff, 11 ans, venait certainement d'assister au meurtre de son père lorsqu'elle a émis désespérément cet appel au secours à l'adresse de sa mère, encore retenue à son lieu de travail. La voix de la fillette était déjà littéralement brisée par une indicible panique, mais elle a eu le temps de prononcer quelques mots. La mère de l'enfant, follement inquiète, téléphone à un voisin, M. Coutrix, un directeur d'école. Celui-ci ne va prendre que le temps d'enfiler un survêtement pour aller voir ce qui se passe. Il deviendra ainsi la troisième victime d'une hallucinante et mystérieuse tuerie. Dans la villa des Le Goff, on découvrira le père de Sandrine, tué d'une balle dans la tête, et M. Coutrix, mort de la même façon. Quant à Sandrine, elle aussi, elle a été mortellement blessée de manière identique. Elle va mourir 2 heures plus tard à l'hôpital de la Timone à Marseille. Crime de sadique qui a été surpris, tuerie aveugle d'un rôdeur. L'abattu monstre opéré cette nuit par les gendarmes, assisté de chiens policiers, n'a encore rien donné. Mais on semble soupçonner de cette tuerie sans mobile évident un voisin dont la petite Sandrine a eu le temps de prononcer le nom.
En fait, comme le disait André Lucchesi à l'instant, la petite fille Sandrine a eu même le temps d'en dire plus à sa mère. Elle a eu le temps de dire que l'agresseur de son père était, je cite, le cousin de René. Et c'est à partir de cette indication que les enquêteurs vont interpeller dès le lendemain trois personnes, dès le lendemain du drame donc. Et parmi ces trois personnes, ils vont trouver un repris de justice qui fait très vite figure de suspect numéro un pour des raisons que expliquait sur RTL Robert Cessieux dans RTL Matin le 20 janvier.
Selon la loi, il n'est comme les autres qu'un témoin, mais les gendarmes ne cachaient pas cette nuit qu'ils en faisaient un véritable suspect. Il faut dire que le personnage a quelques références. Condamné à perpétuité pour homicide volontaire, il a passé plus de 15 ans en prison et s'y bénéficiant de plusieurs remises de peine, il a été libéré l'année dernière. Il apparaît que sa reconversion semblait quelque peu laborieuse. Pourtant, ce n'est pas son passé, mais plutôt son attitude qui en fait un suspect. Alors que sa cousine déclare lui avoir appris l'horrible tuerie, il prétendait l'ignorer lorsque les gendarmes sont venus le chercher. Il affirme par ailleurs ne pas connaître la famille Le Goff. Or, divers témoignages font état d'un différend qu'il opposait au père de la petite Sandrine, à propos, semble-t-il, d'un revolver qu'il voulait lui acheter et que la victime refusait obstinément de lui vendre. Et puis, détail capital, Sandrine, avant de mourir, tué à bout portant d'une balle en plein front, a désigné son meurtrier. Il s'agissait du cousin d'un certain René. Or, son ami intime se prénomme ainsi et de plus, l'un et l'autre se prétendaient parents.
Voilà, il fallait ce rappel pour comprendre de quel homme on parle. On va revenir dans un instant avec mes invités sur le parcours criminel de Tommy Recco, sur son attitude au cours de l'instruction et des différents procès, sur sa famille également, il faut peut-être dire même sur son clan, qui est une famille où les deuils vont se succéder d'année en année pour des raisons qu'on va vous expliquer avec tous ceux qui connaissent parfaitement évidemment et pour cause ce dossier, Guy Morel, donc le mari de l'une des victimes de la tuerie de Béziers, maître Étienne Nicolo, que nous retrouverons dans un instant, comme également Dominique Bréjoux. Dominique Bréjoux, président actuellement de la Cour d'assises du Rhône, était à l'époque des faits procureur de la République au parquet de Toulon et il a donc eu à suivre cette affaire à l'époque. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Le parcours criminel de Tommy Recco à l'occasion de la demande que vient de faire cet homme condamné deux fois à perpétuité qui a maintenant 80 ans et qui en est à sa 34e année de détention, à l'occasion donc de la demande en libération conditionnelle qu'il vient de faire, comme nous l'expliquait tout à l'heure maître Étienne Nicolo, que nous retrouverons dans quelques minutes avec Guy Morel, le mari de l'une des victimes de Tommy Recco. Mais d'abord, Dominique Bréjoux. Dominique Bréjoux, bonjour monsieur.
Bonjour monsieur Braden.
Vous êtes président de la Cour d'assises du Rhône. À l'époque des faits, vous étiez procureur de la République au parquet de Toulon. Je vous remercie d'avoir accepté de compléter par votre éclairage la personnalité de cet homme. Est-ce que je peux me permettre de vous demander d'abord, avant d'entrer dans le détail, un sentiment, mais peut-être plus le sentiment de l'homme que du magistrat. Il est normal que cet homme fasse cette demande de libération conditionnelle après 34 ans de détention ?
Oui, c'est tout à fait normal parce que c'est conforme à la loi et que tout individu condamné peut postuler à sa libération conditionnelle. Maintenant, il reste au magistrat à apprécier le bien fondé de cette demande et bien entendu, je ne dispose pas de moyens pour répondre à cette question dans la mesure où moi j'ai connu Recco en 1983 et que depuis je n'ai plus de contact avec cet homme.
Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans la personnalité de cet homme à l'époque ?
Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le lien qu'il entretient avec la mort, qui est assez impressionnant. Déjà, dans sa famille, soit on reçoit la mort, soit on la donne de manière violente. Oui. Et je dirais que sa famille, c'est une véritable nécropole. Et puis, Recco a entretenu un lien particulier avec la mort, dans la mesure où, déjà en 1962, il a été requis la peine de mort à son encontre. Cette peine n'a pas été prononcée. Il a été arrêté en 1980 pour les crimes de Béziers et de Carqueiran, alors que la peine de mort existait, et que donc il était susceptible d'encourir cette peine. Et la longueur de l'instruction est telle qu'en 1983, lorsqu'il a comparu devant la cour d'assises du Var, cette peine avait disparu de notre arsenal législatif, ce qui fait que M. Recco, lorsqu'il a comparu devant la cour d'assises du Var, je dirais quelque part, et pardonnez-moi l'expression, jouait un peu gratuite, dans la mesure où il savait très bien qu'il n'encourait plus cette peine capitale.
Oui. Alors, cet homme, je l'ai dit très rapidement, je voudrais qu'on s'y arrête, systématiquement, depuis le début de son parcours criminel, avoue, puis se rétracte, et actuellement, je le disais au début de l'émission, il nie l'ensemble des crimes qui lui sont reprochés, pour lesquels il a été jugé.
Alors, il m'est difficile de vous parler du premier crime qui avait été commis en Corse, dans la mesure où je n'ai pas connu cette affaire. En ce qui concerne l'affaire de Carqueiran et de Béziers, il a effectivement reconnu les faits lors de sa garde à vue à la gendarmerie du Pradet. Et j'insiste pour dire qu'il les a reconnus également lorsqu'il a comparu pour la première fois devant le juge d'instruction, qui était M. Nunez, et il a reconnu sans difficulté ces faits, pour se rétracter par la suite.
Oui, et c'est très important que ce que vous venez de dire, parce que, pour être complet, il faut dire que Tommy Recco, par la suite, quand il s'est rétracté, a dit qu'il avait été battu par les gendarmes, et qu'on lui avait extorqué, en quelque sorte, ses aveux.
Alors, il a effectivement avancé cette explication. Je dois dire que le magistrat instructeur avait immédiatement désigné un médecin expert pour examiner M. Recco, et la trace de ses prétendues violences substance n'a nullement été découverte par ses experts. Hein. Ouais. J'ajoute qu'en dehors des aveux de M. Réco, d'autres charges terribles pesaient à son encontre, ne serait-ce que la dénonciation de la fillette Sandrine Le Goff avant son décès, en parlant du cousin de René, et également la découverte à son domicile marseillais des clés ouvrant le garage de la famille Le Goff. Ouais. Donc, j'allais dire, la dénonciation...
Alors que lui disait, je ne les connais pas. Hein. Alors que lui disait, je ne le connaissais même pas.
Oui,
en
oui,
parlant
oui,
de la victime, du père de la petite fille. Hein,
oui. Il ne faut pas oublier que les clés qui ont disparu le jour de l'assassinat ont été retrouvées au domicile occupé par M. Réco. Oui. Bien entendu, M. Réco prétendra que c'est les gendarmes qui ont placé ces clés lors de la perquisition pour le confondre.
Bien sûr. Et vous avez eu à l'interroger ou à le rencontrer au cours de confrontation ?
Je n'ai pas eu à l'interroger au cours d'instruction, mais j'ai partagé 15 jours de ma vie avec lui, si je puis dire, lors du procès d'assises à Draguignan.
Oui. Alors, on reviendra sur ce procès tout à l'heure, parce que son attitude a été très, très particulière. Ça a été noté par tous les journalistes qui ont suivi l'affaire. D'ailleurs, on entendra tout à l'heure des document signé Robert Cessieux qui a suivi pour RTL à l'époque les procès. Je vous remercie beaucoup, je vous retrouve dans quelques minutes pour parler justement du procès. On va faire une pause et tout de suite après, on retourne vers Montpellier et Perpignan pour retrouver Guy Morel et Maître Étienne Nicolot qui est du barreau de Perpignan.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Nous retrouvons à Montpellier, depuis le bureau RTL d'Aline Thibal, à Montpellier, Guy Morel. Alors, Guy Morel, bon, évidemment, on imagine que le jour où on vous a annoncé, on vous l'a annoncé d'ailleurs en plusieurs épisodes, hein, que votre épouse avait été tuée dans ce drame, dans ce hold-up, c'est un monde qui s'effondre.
Ben écoutez, moi, le 22 décembre, j'ai été prévenu par des amis, parce que le matin, je m'étais, disons, absenté de chez moi, sans rentrer, disons, à 13h pour le déjeuner, et on ne m'a, disons, rien dit absolument ce qui se passait. Donc, on m'a ramené devant le magasin Mammouth à Béziers, c'était environ dans les 19h. Bien sûr que quand j'ai vu, disons, l'ampleur de la police, des pompiers, et la fermeture du magasin, sans savoir exactement ce qui s'était passé, j'ai de suite compris qu'il y avait quelque chose, disons, de grave, mais je me disais, ne serait-ce que pour mon épouse, c'est bizarre que veille de Noël, on ait fait, disons, une fermeture de ce magasin. Et si vous voulez, j'ai demandé, cherché à comprendre, et on m'a dit, elles sont à l'hôpital à Béziers. Et bien sûr, je me suis rendu directement à l'hôpital à Béziers aux urgences, et bien sûr, j'ai été accueilli par le personnel hospitalier qui me disait, écoutez, calmez-vous, on est en train de soigner, elles sont pas là, on va les amener sur Montpellier, mais enfin... De suite, j'avais un pressentiment sans savoir et j'ai rencontré, bien sûr, la famille de Mme Alcaraz et de Mme Chamaillou.
Les deux autres victimes.
Voilà. Ouais. Donc, c'était le samedi soir. Donc, je n'ai eu que connaissance de mon épouse qui était transportée à Montpellier pour une autopsie. Et on a ramené les corps le soir du 24 décembre, le soir de veille de Noël, que je suis allé récupérer à la morgue de Béziers. Et là, bien sûr, j'ai pu voir mon épouse avant que... On referme le cercueil. Elle avait la mâchoire, enfin les dents tout en sang encore. Elle avait les yeux au bord noir. Et je précise que mon épouse n'était pas dans la salle des comptages. Elle était simple caissière dans le magasin. Et si vous voulez, je suppose que quand elle est allée porter son tiroir caisse de la recette, parce qu'elle avait une pause pour aller manger, c'était disons 13h30, elle s'est trouvée nez à nez avec M. Réco, qui l'a frappé de son vivant, et l'a fait rentrer dans la salle des comptages, et lui a mis une balle dans la tête, aussi bien à Mme Chamaillou qu'à Mlle Alcaraz.
Alors, il y a eu, on l'a dit, hein, l'enquête à piétine pendant Pamba, parce qu'il y avait très très peu d'informations, évidemment, mais on va pas entrer dans cet aspect-là de l'affaire, mais je tiens à le dire simplement, parce que c'est évidemment la réalité de votre position, enfin, vous avez été... par rapport aux mesures de sécurité prises par l'employeur de votre femme, très, très critique à l'époque.
Oui, bon. Oui.
Mais ensuite, il y a la tuerie de Kerkeran, ce qu'on a appelé la tuerie de Kerkeran. Il y a l'arrestation de Rico. À partir de ce moment-là, vous êtes soulagé de savoir que vous allez pouvoir mettre un visage sur, sur l'auteur de ce drame.
Disons qu'on a fait le rapprochement, bien sûr, mais je ne connaissais absolument pas, disons, l'affaire de Kerkeran vis-à-vis de la connaissance de M. Le Goff avec M. Rico.
Oui.
C'est par la suite que j'ai découvert au fil des jours cette situation, parce qu'en définitive, c'est M. Le Goff qui était, au moment des fêtes à Béziers, était en vacances dans sa famille, qui a révélé à sa reprise au travail, à, disons... où il travaillait avec la tante de Rico. Et c'est la tante à Rico qui a averti Rico de la situation.
Donc pour vous, sa culpabilité ne fait pas de doute.
Il n'y a aucun doute, même encore aujourd'hui. Il n'y a pas de problème.
Mais vous voudriez qu'il ne soit jamais libéré?
Mais il est certain qu'il ne doit pas être libéré, même ne serait-ce que pour aujourd'hui, pour raison médicale, parce que tout ce qu'il peut dire, c'est faux. Il n'a absolument aucune pathologie. Et puis, ne serait-ce que je viens de passer quand même 2 heures avec le procureur de la République, avec M. Michel Hubert, le juge d'application des peines, Rico ne sortirait que si vraiment il était en fin de vie, avec un cancer phase terminale, avec des métastases.
Oui. Mais maître Nicolau, vous avez remarqué qu'il avait fait aussi une demande, j'allais dire, qui correspond à la marche habituelle de ce que sont autorisés à demander les détenus après un grand nombre d'années de détention. Vous ne supporteriez pas, enfin, je veux dire que, en général, ce genre de libération conditionnelle, c'est assorti d'un certain nombre de contraintes. Même dans ce cas-là, vous considérez qu'il doit rester incarcéré?
Mais écoutez, d'après ce que je peux savoir, puisque je vous dis encore, samedi, j'étais à, disons, à la centrale de Borgo où il est détenu, c'est un homme extrêmement dangereux. Donc je ne vois pas la raison qu'on le remettrait en liberté, surtout qu'il
fait... Vous pensez qu'il serait susceptible de recommencer à tuer?
Ah oui, ah ben oui, puisqu'il m'a menacé, même moi, personnellement. J'ai été menacé, j'ai porté plainte, disons, au commissariat de police à Béziers, par, disons, un éducateur qui a eu cette information par un co-détenu, et M. Rico est très dangereux. Donc je ne vois pas, d'abord, ne serait-ce que, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans cette société, il est désocialisé, après pratiquement 50 ans de détention, je ne vois pas la solution pour lui, quoi. Surtout qu'il est encore dans le déni, vous voyez, il vient de nouveau de récidiver en disant que c'était pas lui qui avait tué le garde-pêche, alors que je peux vous certifier, ça je tiens à ce que tout le monde le sache, monsieur Casabianca est décédé depuis 4 ans, mais j'ai, disons, le témoignage de madame Casabianca où j'étais à son domicile samedi à Propriano, après avoir rendu, disons, sur le mémorial de monsieur Casabianca.
Vous parlez madame, du garde maritime, du garde pêche.
Voilà, monsieur Casabianca qui a été assassiné par monsieur Rico
en 60.
Madame Casabianca, où j'étais chez elle samedi à Propriano, m'a bien certifié que madame Rico, la maman.
J'ai compris, vous l'avez dit une fois, mais je pense que vous ne pouvez pas mettre en cause quelqu'un qui n'est pas là d'abord pour vous répondre et qui n'est pas sous le coup d'une...
Elle est décédée, madame Rico.
Bon, mais je veux dire, même pour sa mémoire, c'est bien de... voilà, bon, elle n'a pas été inculpée pour ça, ni jugée pour
ça.
Dernière question, Guy Morel. Fin avril, cette décision, elle va être prise.
Vous voyez ce que je veux dire, elle est prise déjà,
C'est-à-dire
qu'il ne sortira pas, voilà. Parce que s'il sort, vous voyez, j'étais encore en communication avec la famille Casabianca, avec la famille M. Le Goff. Mais écoutez, si un juge d'application des peines, vous croyez que celui qui a pris la décision de le libérer en 77, il peut nous regarder en face? Vous croyez que ça ne fait pas, disons, 6 victimes innocentes? Vous voulez que quoi, qu'il y ait une autre récidive? Pourquoi? Pour qu'il finisse en prison une fois de plus? Mais parce qu'il va récidiver, c'est sûr et certain qu'il est dangereux, puisque je pense, d'après disons, mon avocat, encore, il a provoqué en disant qu'il nous souhaitait un bon week-end, quoi. Voilà où on en est, quoi.
Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, et en tout cas, évidemment, on suivra ça de très près. Merci infiniment, Guy Morel. Une dernière pause dans cette émission. On va retrouver Maître Nicolau et Dominique Bréjoux pour évoquer les périodes des procès, du procès de Mirico, le deuxième procès, donc, où il était condamné à perpétuité. À tout de suite.
l'heure du crime sur RTL.
Nous retrouvons mes invités dans un tout petit instant, mais d'abord on revient avec un document RTL sur ce 14 juin 1983, date à laquelle Tommy Recco est condamné par les assises du Var à la prison à perpétuité. Il y a délibéré relativement court, 1h45, les jurés reconnaissent donc la culpabilité de cet accusé sans lui accorder de circonstances atténuantes, et on va entendre le compte-rendu de cette dernière audience signée Robert Cessieux.
Un cri de douleur, un cri déchirant a dominé les applaudissements et les appels à la mort qui ont fusé du public lorsque le président a rendu le verdict. Ce cri, c'était celui de Chantal Recco qui s'est effondrée. C'est qu'on avait commencé à y croire dans le clan des Recco. Maître Monneret d'abord, Maître Lotte ensuite, avait relevé les quelques éléments qui pouvaient, sinon disculper l'accusé, du moins lui faire bénéficier du doute. Mais il appartenait à Maître Paul Lombard de clore les débats. Il l'a fait avec énormément de sensibilité, beaucoup de passion et un énorme talent, en reprenant une à une les charges qui pesaient contre Recco. La plus terrible de ces charges, c'était l'appel de Sandrine. Sandrine qui a vu venir vers elle son assassin et qui l'a désigné. Mais, a insisté Paul Lombard, terroriste, cette gamine a bien pu se tromper. Alors, il y avait les aveux, mais il a remarqué cette fois que ces aveux ne correspondaient à la vérité que lorsqu'il s'agissait de faits connus de la police. Tout le reste était fantaisie. L'avocat a quand même admis que Recco était bien peu crédible lorsqu'il proclamait son innocence et de dire que s'il n'arrivait pas à le faire acquitter, il voulait au moins faire en sorte que Recco soit moins haï. C'est raté. Les gens ont crié à mort lorsqu'il a quitté le box, happé par cette trappe qui l'amenait vers son destin, celui des enfants maudits.
On revient à vous, Dominique Bréjoux, donc à l'époque procureur de la République au parquet de Toulon. Vous étiez l'avocat général ?
Oui. Mmh. J'étais donc l'avocat général qui soutenait l'accusation contre Tommy Recco.
Et on peut parler de l'ambiance de ce procès, parce qu'on sent à travers les propos de Robert Cessieux qu'il y a une ambiance très très tendue tout au long des débats.
Tout à fait, une ambiance houleuse, très tendue, une foule vindicative, à telle enseigne qu'on a dû renforcer les mesures de sécurité pour que le procès puisse aller jusqu'à son terme en toute sérénité.
Oui, parce qu'il y avait, c'était, comment dire, une réaction à l'horreur des faits, quoi, si j'ose
oui,
dire.
Oui, bien sûr, une réaction à l'horreur des faits. N'oublions pas que nous avons un procès hors norme, puisque nous avons six victimes, oui. Six victimes d'assassinat avec un accusé récidiviste. Oui. Et je dirais que l'attitude à l'audience de M. Recco a fortement contribué à ce climat malsain de l'audience.
C'est-à-dire qu'il nie, il se prend pour le Christ et il
non
dit
je fais
mon chemin de croix, tout le monde m'en veut.
Voilà, il adopte une attitude que certains ont qualifiée d'attitude de bouffon, puisque personne ne croit ses protestations d'innocence. Il se présente avec des cheveux extrêmement longs pour davantage ressembler au Christ, et il lance des incantations en direction de la foule. Il fait des bons mots, comme il dit lui-même. Il félicite le président Brunat en lui disant qu'il aurait de l'avancement. Voilà le genre de choses que j'ai entendues.
Et qui ont joué contre lui, bien sûr.
Qui ont joué contre lui, bien entendu. Et j'allais dire également contre ses avocats, lesquels ont fait très loyalement leur travail, mais qui ont dû gérer leurs clients tant bien que mal.
Est-ce que vous vous souvenez du moment où la mère de Tommy Recco, Micheline, je crois.
Oui, Micheline.
Micheline, bon.
Est venue déposer, effectivement.
Ouais. Alors, cette femme, toujours habillée en noir à cause de cette ambiance morbide dont vous parliez tout à l'heure, elle a cru jusqu'au bout à la sincérité de son fils et à l'innocence de son fils.
Je ne sais pas si intimement elle était convaincue de l'innocence de son fils. En tout cas, elle est venue nous faire partager sa conviction, mais sa conviction ne reposait sur aucun élément fiable, tangible. On ne peut jamais reprocher à une mère de venir témoigner en faveur de son fils.
Oui.
Vous savez, je crois que c'est Camus qui disait « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». C'était le cas
sûr.
De Micheline Recco.
Bien sûr. Mais on avait parlé même, j'y pense là en vous entendant, on avait parlé de la malédiction des Recco, une histoire de une légende, parce que la famille Recco aurait trouvé une tortue-lutte échouée sur la plage de Propriane, qu'on aurait traité la carapace, ça serait devenu le berceau de tous les enfants, et tous les enfants qui ont eu, comme vous le disiez, un destin funeste, presque tous.
C'est ce qu'a développé Maître Lotte dans sa plaidoirie, mais tout ça fait partie de la mythologie corse, ne repose sur aucun élément sérieux, vérifiable, tangible.
Mais en tout cas, ce procès restera, j'imagine, et ce personnage restera parmi toutes les affaires et tous les criminels que vous avez rencontrés, aura une place à part, je suppose.
Oui, une place à part, non seulement, comme je disais, en raison du nombre de ses crimes, mais c'est un professionnel du crime. Et en 1962, le bâtonnier Filippi, qui représentait les intérêts de la partie civile, avait qualifié Recco de grand criminel et avait indiqué « Il est dommage pour l'histoire du crime que le parcours de M. Recco s'arrête là ». Or, en fait, il ne s'est pas arrêté en 1962, puisque nous avons vu que, à peine libéré, il s'est rendu coupable des agissements que l'on connaît.
Je vous remercie beaucoup de cet éclairage, Monsieur Bréjoux. Merci infiniment. On va terminer, il nous reste 3 minutes, avec Maître Nicolo. Je reviens vers vous, peut-être pour préciser un certain nombre de choses. Vous l'avez abordé tout à l'heure, mais je crois que ça mérite d'être souligné. Il n'y a aucun problème juridique dans cette demande de libération qu'on dit.
Non, cette demande de libération conditionnelle est juridiquement possible. Moralement, on peut aussi imaginer qu'il n'y a pas de problème, que chacun peut, même après avoir été condamné, faire preuve de rédemption et solliciter de la société une mesure de clémence. Le problème pour Tommy Recco, c'est celui de savoir s'il est toujours dangereux ou pas. Et les magistrats ne s'y sont pas trompés.
On demande des expertises particulières à l'occasion d'une
psychiatrique. Ouais. Et il y a eu mieux. Il y a eu ce qui est aujourd'hui obligatoire lorsque une personne est condamnée à la perpétuité, un avis qui a été donné par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Mmh. C'est une commission qui comprend des psychiatres, des psychologues, des magistrats, qui doit donner son avis sur la mesure envisagée. Et cette commission a donné un avis totalement défavorable à un aménagement de peine concernant Tommy Recco.
Et pourquoi alors le tribunal d'application des peines de Bastia reporte sa décision à la fin du mois d'avril ?
Parce qu'il est normal que les magistrats ne rendent pas leur décision sur l'émotion d'audience. Oui. Mais je crois qu'il y a dans ce dossier la crainte qui est partagé par tout le monde, que cet homme ressorte et commette à nouveau des crimes.
Ça veut dire qu'il va mourir en prison ?
Il y a de risques qu'il meure en prison parce qu'il continue à nier des évidences.
S'il était revenu sur ses rétractations, si j'ose dire, il aurait une chance.
Il aurait eu une chance supplémentaire. Mais
c'est retenu contre quelqu'un de ne pas avouer un crime.
De ne pas reconnaître les évidences, c'est-à-dire de ne pas prendre conscience de ce qui s'est passé, de ne donc rien regretter. Oui. Or, on sait qu'il y a eu, dans les derniers crimes, 6 personnes qui ont été abattues, toutes froidement, toutes d'une balle dans la tête.
D'où le titre de Medilib que je rappelais tout à l'heure de sang-froid.
Moi, je pense qu'on a affaire à un individu dangereux qui, effectivement, n'étant pas véritablement malade, peut commettre à nouveau des actes criminels s'il est libéré. C'est ce que craignait d'ailleurs le procureur qui avait requis à Bastia. C'est ce qui s'est passé ensuite. Ouais. Et on peut craindre qu'il y ait encore une fois des récidives qui viendraient endeuiller à nouveau la société.
Je vous remercie beaucoup. On tenait beaucoup à lorsqu'on a appris donc cette demande de liberté conditionnelle, on voulait revenir sur cette affaire avec en parlant évidemment à ceux qui nous écoutent régulièrement. Je vous remercie beaucoup. Merci Maître Nicolo. Merci aussi à Dominique Bréjoux, donc le président actuel de la Cour d'assises du Rhône, qui était à l'époque des faits procureur de la République et avocat général. Merci à Guy Morel. C'était pas facile, mais il tenait beaucoup à participer à cette émission. Guy Morel est le mari de Sylvette, l'une des victimes de la tuerie de Béziers. L'émission est terminée. On attendra donc, répétons-le, le 24 avril pour connaître la décision du tribunal d'application des peines de Bastia. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans quelques secondes.